Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balade. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 17 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Le Hajj est un élément d'unité contre l'oppression. Déclaration du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, est le titre de notre commentaire d'aujourd'hui. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran reçoit les organisateurs du Hajj 2023. L'Iran et la Russie ont signé un accord pour la construction d'un méga projet ferroviaire. Et puis l'Iran et l'Arabie saoudite discutent des relations monétaires et bancaires entre les deux pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, a déclaré que l'objectif du Hajj était de promouvoir l'unité islamique contre l'oppression et l'arrogance. S'adressant aux officiels et à un groupe de pèlerins, l'Ayatollah Khamenei a décrit le Hajj comme le rituel le plus important. Il a qualifié le Hajj d'occasion de la manifestation pratique de l'opposition de l'islam aux distinctions géographiques, raciales, de classe et autres. Ceci au moment où les pays soi-disant civilisés sont toujours aux prises avec des préjugés raciaux tels noirs et blancs et européens et non européens. L'Ayatollah Khamenei a noté que les musulmans accomplissent le rituel du Hajj comme s'ils appartenaient à une même race et nationalité. Quelques 89 000 Iraniens sont attendus en Arabie saoudite cette année pour effectuer le pèlerinage annuel du Hajj. L'Iran et la Russie ont finalisé un accord pour la construction d'un méga-projet ferroviaire qui relie les deux pays via l'Azerbaïdjan. Le président iranien Ibrahim Raisi était présent à la cérémonie de signature de l'accord qui s'est tenue dans la capitale Téhéran. L'Ayatollah Raisi a salué la construction du chemin de fer Rasht-Astara, le qualifiant de projet important qui profitera aux deux pays. Le président russe Vladimir Poutine s'est joint virtuellement à la cérémonie. Il a également souligné l'importance du projet et a promis que Moscou mettrait tout en œuvre pour le mener à bien. Le chemin de fer Rasht-Astara complétera un corridor sud-nord qui relie l'Asie du Sud à l'Europe du Nord. Il jouera un rôle de premier plan dans la facilitation du transport et du transit. Une délégation russe de haut rang, dirigée par le vice-premier ministre Alexander Novak, est arrivée mardi soir en Iran pour une visite de 2 jours dans le pays. Lors de cette visite, à Téhéran, un contrat définitif sur le projet ferroviaire Rasht-Astara a été conclu entre les deux parties. l'Iran et l'Arabie saoudite discutent des relations monétaires et bancaires entre les deux pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères, économiques et des Finances, Ehsan Khandouzi, a annoncé les négociations avec son homologue saoudien pour relancer les relations monétaires et bancaires entre les deux pays. Se référant à sa récente visite à Jeddah en Arabie saoudite et à sa rencontre avec le ministre saoudien de l'économie, Ehsan Khandouzi a déclaré « Lors de la réunion, la question du rétablissement des vols entre les deux pays et de la réouverture des banques a été abordée. » Selon Khandouzi, le début des échanges économiques entre les deux pays, basés sur le rétablissement des relations politiques, notamment dans les domaines monétaires et financiers, a été l'un des sujets les plus importants des récentes négociations avec le ministre saoudien de l'économie. Après plusieurs jours d'intenses pourparlers organisés par la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu le 10 mars de rétablir leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades. Dans une déclaration conjointe publiée par l'Iran, l'Arabie saoudite et la Chine, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale de chacun et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autrui. Ils ont également convenu de remettre en œuvre des accords de coopération en matière de sécurité datant de mai 1998 et d'avril 2001 pour renforcer leurs liens dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la technologie, la science, la culture, les sports et la jeunesse. Le président iranien a déclaré que le jour de la Nakba est un rappel de l'une des tragédies les plus douloureuses de l'histoire humaine qui a donné un coup d'envoi à la plus longue crise politique et humaine du siècle entier. Dans un message destiné à tous ceux qui commémorent cet événement international, le président iranien a déclaré qu'Israël avait provoqué le déplacement des millions de Palestiniens. L'ayatollah Raïsi a déclaré que le régime de Tel Aviv avait suivi la politique d'assassinat ciblé et de destruction de maisons palestiniennes ces 75 dernières années. Il a souligné que les crimes d'Israël constituaient une manifestation concrète du terrorisme d'État et du meurtre de masse et que de telles exactions sont contraires aux principes fondamentaux du droit international. Le président Raïsi a ajouté que les alliés occidentaux d'Israël, en particulier les États-Unis, étaient clairement complices de ces crimes. Et de poursuivre, le régime israélien s'est dérobé à toute forme de responsabilité concernant ses agissements à l'encontre des Palestiniens et d'autres peuples de la région, en bénéficiant du soutien indéfectible de Washington, qui a toujours opposé son veto à toutes les résolutions de l'ONU. M. Raïsi a réaffirmé que l'Iran condamnait les crimes du régime d'apartheid dans les termes les plus forts et avait fait une proposition démocratique pour une résolution politique de la crise qui se manifeste sous la forme de l'occupation de la Palestine. M. Raïsi a par ailleurs réaffirmé le soutien de Téhéran à la cause légitime du peuple palestinien et à l'établissement d'un État indépendant et intégré sur l'ensemble des territoires palestiniens historiques, avec la ville sainte occupée de Rhodes comme capitale. Des millions de personnes célèbrent le jour de la Nakba, nommé à juste titre le jour de la catastrophe, qui fait référence à la création d'Israël dans les territoires occupés en 1948. Réagissant à certaines allégations sur l'application du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Eslami, a déclaré « L'OIOA n'est pas responsable des négociations. Cette responsabilité incombe aux parties présentes dans le plan global d'action conjoint ». Réagissant aux récentes déclarations de Grossi concernant les négociations sur la levée des sanctions, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a poursuivi « L'AIOA n'est pas partie aux négociations. Cette responsabilité incombe aux parties présentes dans le plan global d'action conjoint ». Les relations entre l'Iran et la UAE sont fondées sur l'accord de garantie et le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Et la surveillance se poursuit, sans interruption, a-t-il souligné. M. Eslami a rejeté les allégations de l'agence de presse Bloomberg, selon lesquelles l'agence IOA a réduit sa surveillance sur les activités nucléaires iraniennes et a déclaré « Les interactions entre l'Iran et l'agence se poursuivent. Selon la déclaration conjointe Iran-IOA le 4 mars 2023 de Téhéran. » Citant un rapport du directeur général de l'Agence de l'énergie atomique, Bloomberg Network a avancé que la surveillance du programme nucléaire iranien a été diminuée de 10% l'année dernière. Mohammad Eslami, chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, a précédemment déclaré à propos de l'accord de mars entre l'Iran et la IOA et de l'avancement des négociations « Le processus des négociations progresse et suivi, et des délégations techniques et d'experts font des allers-retours entre l'Iran et la IOA, et ils se communiquent tous les jours. Nous publierons les résultats de travail dans les temps opportuns », a-t-il conclu. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le Hajj est un élément d'unité contre l'oppression. Déclaration du leader de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a reçu en audience mercredi 17 mai le responsable chargé d'organiser la participation des pèlerins iraniens au rituel annuel du Hajj. Au cours de cette réunion, l'Ayatollah Khomeini a souligné l'importance du Hajj en tant qu'événement mondial et élément civilisationnel. Le leader de la révolution islamique a souligné l'importance du pèlerinage annuel du Hajj et a appelé à la compréhension profonde de cette obligation religieuse. Le Hajj est une question mondiale et civilisationnelle, dont le but est la poursuite du développement et du progrès des nations musulmanes, le rapprochement des cœurs des croyants et l'unification de l'oumma islamique contre l'incrédulité, l'oppression, l'arrogance, les idoles humaines et non humaines, a déclaré l'Ayatollah Khomeini. Se référant à des versets du noble Coran, le leader de la révolution islamique a affirmé que la Kaaba était source de progrès et de la stabilité de toutes les sociétés humaines. Il a également évoqué les bienfaits matériels et les avantages spirituels de l'accomplissement du Hajj par les musulmans. Sans le Hajj, l'humain islamique s'effondrerait, a-t-il prévenu. Le leader de la révolution islamique a insisté par la suite sur l'aspect international du Hajj qui est à l'invitation divine à tous les peuples à accomplir ce grand pèlerinage annuel. L'un des nombreux avantages du Hajj est qu'à l'occasion de ce grand rassemblement annuel, les musulmans du monde entier affichent leur puissance, expriment leur opposition au régime sioniste, défient l'influence des puissances arrogantes et de tous les oppresseurs, a ajouté l'Ayatollah Khomeini. Selon le leader de la révolution islamique d'Iran, le monde musulman doit profiter du rassemblement annuel du Hajj pour envoyer un message fort au régime israélien et aux puissances hégémoniques. L'Ayatollah Khomeini a souligné que la participation au rituel du Hajj était aussi une occasion pour que les musulmans partagent leur point de vue au sujet des grands problèmes mondiaux, y compris les tristes événements qui se produisent en Palestine. Le leader de la révolution islamique a affirmé que le rassemblement des musulmans qui viennent des quatre coins du monde rejette en soi les divergences et les conflits qui puiseraient leurs racines dans le racisme ou la lutte des classes. L'Ayatollah Khamenei a réitéré que le peuple et les responsables iraniens devraient être très attentifs aux complots, aux méthodes et aux politiques des ennemis de l'Iran islamique et d'en connaître les points forts et les points faibles pour mieux contrer l'animosité des ennemis. Si nous sommes conscients des problèmes du monde, nous serons également en mesure de comprendre les véritables objectifs de nos ennemis et la raison de leur insistance obstinée sur certains points, a déclaré le leader de la révolution islamique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Les combats se poursuivent entre l'axe de la résistance, notamment à Gaza, et le régime sioniste, des combats intenses qui ont fait des pertes aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, mais surtout un silence des instances internationales comme d'habitude, qui ne réagissent pas à ces crimes, les crimes continus du régime sioniste qui se poursuivent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais le plus important, ce sont ces dernières attaques et ces derniers agissements dans la région qui se poursuivent. Nous allons évoquer en détail ce qui se passe sur le terrain avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
La lutte de la résistance palestinienne contre les crimes du régime sioniste est à son quatrième jour, en ce vendredi 12 mai. Et les sirènes d'alerte à la roquette n'ont pas cessé de retentir à Tel Aviv. Les sources israéliennes ont rapporté que le nombre d'attaques était élevé et que l'armée sioniste avait subi de lourdes pertes. Des politiciens, des opposants et des membres des médias dans les territoires occupés font pression sur le cabinet sioniste pour mettre fin au conflit. Le site internet de la chaîne 7 du régime sioniste a rapporté qu'il y a un consensus pour un cessez-le-feu parmi les rangs politiques et les autorités militaires à Tel Aviv, qui s'accordent sur la nécessité de mettre fin aux offensives contre la bande de Gaza. D'ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a eu jeudi soir une réunion sur l'évolution de la sécurité en présence du ministère des Affaires militaires Yoav Gallant, du directeur de l'agence de renseignement Ronen Bar, du chef de l'armée Herzi Halevi et d'autres hauts responsables militaires. À mesure que les destructions et les pertes dans les territoires occupés augmentent, les critiques sur l'état défectueux des systèmes de défense aérienne d'Israël prennent de l'ampleur dans le milieu politico-militaire. Daniel Agari, porte-parole de l'armée sioniste, a reconnu le dysfonctionnement du drone de fer. Le missile qui a touché une maison à Sderot n'a pas été intercepté en raison d'un défaut technique. Le missile tirait à une portée de 70 km et était accompagné de 20 kg d'explosifs, a-t-il indiqué. Selon les dernières statistiques révélées par le ministère de la Santé de Palestine, 31 personnes ont été tuées et 93 autres blessées à la suite de l'agression continue du régime sioniste dans la bande de Gaza. Des drones et des armes israéliens ont touché des maisons et des champs agricoles.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités d'honneur. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles, et également Rada Oubala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour à tous les deux et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, Rada Oubala, vous êtes experte en ces questions. Vous êtes aussi observatrice de très près de ce qui se passe sur le terrain. Donc, dans un premier temps, comment interprétez-vous la situation? Dans quelle situation et dans quelles circonstances trouve-t-on-nous en fait aussi bien à Gaza et aussi dans les territoires occupés?
Oui, je vous écoute.
D'accord.
Alors,
merci. On vous aide.
Merci beaucoup pour votre invitation et je salue également au passage votre invité, M. Luc Michel.
Merci.
Alors, concernant votre question, pour rappeler les faits très vite, c'est qu'après l'assassinat de trois hauts cadres plus exactement du djihad islamique, l'entité sioniste n'a pas réussi à marquer un point face au silence stratégique adopté par le djihad islamique qui a duré environ 35 heures. Après les 35 heures, un deuxième point fort de la part du djihad islamique, c'est que, là j'entends un écho, excusez-moi, c'est que c'est la chambre commune des factions de la résistance islamique qui a déclaré dans un communiqué que la riposte sera très sévère et elle a annoncé l'opération La Vengeance des Libres. Donc, à travers ces deux points forts, l'entité sunniste qui voulait éradiquer le djihad islamique et l'isoler par rapport aux autres factions de la résistance n'a pas réussi à le faire, premièrement. Et deuxièmement, malgré le martyr de trois hauts cadres militaires du djihad islamique, ceci n'a pas empêché le djihad islamique de lancer plusieurs salves, près de 800 30 missiles jusqu'à ce jour qui ont touché le cœur de Tel Aviv, qui ont touché les colonies environnantes à la bande de Gaza, qui ont forcé les colons sionistes et les sionistes de se réfugier dans leurs abris. Mm-hmm. Donc ça c'est pour c'est un résumé plus ou moins positif. Mais si l'on veut également comparer le bilan jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 5 hauts cadres qui ont été tués appartenant au djihad islamique. Ce n'est pas évident, c'est une situation difficile. Certes, que ce soit le djihad islamique ou n'importe quelle faction de résistance palestinienne ou islamique, donc je parle de tout l'axe de résistance, tous ces commandants qui sont tués pour chasser aspire en fait non pas à la gloire au niveau matériel, mais surtout aspire au martyr. Donc les factions de la résistance ne seront pas démoralisées ou bien par le fait que l'entité sioniste parvient justement à tuer de hauts cadres. Je reviens au discours du secrétaire général du Hezbollah hier qui a déclaré et qui a bien souligné que les factions de la résistance ont la capacité de remédier à la perte de leur commandant. Donc, on est habitué aux propos de Saïd Hassan Nasrallah qui, d'habitude, se base sur des faits dont on ne connaît pas. Donc, s'il déclare une telle déclaration, c'est que vraisemblablement, il y a encore beaucoup de surprises que les factions de la résistance promettent de réaliser, de surprendre l'entité sioniste. Mais encore, il a bien souligné et rappelé que si jamais l'axe de la résistance et se voit forcé d'offrir son soutien aux factions de la résistance palestinienne, s'il y a nécessité en cela, nous serons prêts à accomplir notre devoir dans cette lutte. Donc, la question qui se pose, après le martyr du commandant de l'unité opérationnelle hier, M. Iyad Al-Hassani, je doute fort que les factions de la résistance palestinienne puissent accepter une quelconque trêve. Je pense que maintenant c'est fini, on va aller d'escalade en escalade. Et je crois que le djihad islamique va aller jusqu'au bout. Et quand on parle jusqu'au bout, alors là, je pense réellement, c'est la première fois que je dis que c'est l'axe de la résistance qui va également réagir. Parce que si commandant tué ainsi et ne pas pouvoir parvenir à une trêve dans laquelle la condition première est d'arrêter la politique d'assassinat adoptée, entreprise par l'entité sioniste, il n'y aura pas de trêve.
Merci pour les explications, Rada Oubala. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Luc Michel, vous êtes également avec nous. Vous également, vous suivez de très près les évolutions de la région. Vous avez entendu l'analyse de Rada Oubala. Vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse à ce sujet?
Tout d'abord, je vous salue, votre équipe et ma collègue. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour soutenir la cause palestinienne. Ça fait plus de 50 ans que je soutiens les Palestiniens. Ça a été le premier engagement politique de ma vie. Et aujourd'hui, nous voyons enfin la cause progresser. Il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, c'est que le temps de l'adhésion des Palestiniens est terminé. Aujourd'hui, il y a une résistance palestinienne unie qui est en phase avec l'acte de la résistance et qui est en phase avec l'opinion publique arabe. Mais la seconde chose, c'est que l'agression israélienne contre les Palestiniens a changé de dimension. On n'est plus à une occupation hypocrite avec des moyens de répression des colons, etc. On est véritablement dans une guerre d'occupation avec l'armée israélienne qui frappe avec tout le matériel militaire les populations palestiniennes. Et les populations palestiniennes qui répondent elles aussi avec du matériel militaire lourd. C'est cela qui est différent de ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes.
Merci. Et vous, M. Michel, à votre avis, quelles seront les réactions prochaines de l'axe de la résistance?
Je crois qu'il y aurait une montée en puissance. Les Israéliens, par leur agression, ont empêché tout dialogue. Il n'y aura pas de trêve, mais volontairement une montée en puissance. D'autant plus que la résistance palestinienne, c'est qu'elle est un moment historique de son histoire.
Merci, Rada Oubala. Vous avez évoqué les chances que le Hezbollah libanais entre en scène et réagisse. À votre avis, un petit peu en plus de détails, si possible, quelles seront ces réactions?
Tout dépend de l'évolution des événements sur le terrain en Palestine occupée. Le Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a bien souligné en fait que nous suivons minute par minute. C'est dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Nous suivons minute par minute les événements en Palestine occupée. Et donc, étant donné que c'est la chambre commune des factions de la résistance palestinienne qui est en train de superviser toutes les actions de riposte de la part du djihad islamique, on pourrait voir un début si jamais la situation se détériore, que le Hamas puisse se joindre justement au djihad islamique. Et là, à ce moment-là, si le Hamas rejoint le djihad islamique, nous sommes devant une nouvelle équation au niveau de l'équilibre de la terreur sur à Gaza. Et donc, la situation risque d'augmenter si jamais Netanyahu fait l'erreur d'ouvrir le front nord de la Palestine occupée ou de l'entité sioniste, c'est-à-dire la frontière libano-israélienne. Ou bien, on pourrait voir, là, c'est des scénarios que je suis en train d'analyser, oui. Qu'à ce moment-là, ça va être Hassan Nasrallah, puisse ouvrir non pas la frontière libano-palestinienne, mais que ce soit du côté du Golan. Donc là, ce sera du côté du Golan syrien. Et donc, on pourrait également ouvrir un front là-bas. Tous les scénarios sont possibles, sont plausibles. Je ne peux pas donner une analyse précise, puisque là, au moment où je vous parle, déjà, il y a eu plusieurs urgences, c'est-à-dire la radio israélienne a d'abord déclaré à 1h30 que les négociations de cessez-le-feu sont en impasse. Et il y a eu en même temps plusieurs raids aériens israéliens, là maintenant, à l'heure où je vous parle, simultanés dans plusieurs régions au nord de la bande de Gaza, à Jabalia, à Beit Lahia, à Beit Hanoun. Donc ce sont, le cercle de feu est en train de s'élargir. Et donc, j'imagine que le Hamas va intervenir dans cette lutte. Également encore, selon un communiqué des brigades Al-Quds, il y a environ une heure, ils ont également marqué le ton en disant que face à la poursuite, que la résistance s'est préparée pour des mois de confrontation. Donc là, on n'est plus à une affaire de 4 jours ou bien c'est fini. Je vous ai dit auparavant qu'à partir du moment où il y a 6 ou 5 commandants-chefs qui ont été assassinés, il est hors de question pour les brigades Al-Quds et pour le djihad islamique d'accepter une trêve dans laquelle il n'y a pas comme condition sine qua non que, que l'entité sioniste arrête sa politique d'assassinat. Et je dois le dire, malheureusement, l'entité sioniste ne signera jamais un tel accord avec une telle condition, pour une simple raison, que la Cour suprême israélienne a donné un jugement dans lequel elle a considéré que la politique d'assassinat de l'entité sioniste fait partie de la sécurité nationale de l'entité sioniste. Donc ils ont déjà une légitimité au niveau intérieur. Donc il n'est pas question qu'ils puissent accepter une telle condition. C'est la raison pour laquelle je ne vois qu'une escalade et que la région risque de s'enflammer. Parce que dans les deux cas, il est impossible que l'un des deux ne puisse se plier. Netanyahou, en plus, sans compter que le premier ministre israélien Netanyahou joue son avenir politique, déjà il était dans une situation embarrassante parce que justement il y avait une dissension entre au sein de la société juive. Donc vous avez l'opposition qui est en train de guetter ce qui se passe et déjà il l'accuse d'avoir entraîné l'entité sioniste dans une escalade dans laquelle on ne sait pas quelles seront ses conséquences et comment elle risque de se terminer. Donc nous sommes dans une impasse qui risque d'enflammer la région.
Et Madame Moubala, en ce qui concerne le dernier discours de Saïd Hassan Nasrallah, est-ce que vous qui suivez toujours en détail ces discours, est-ce que vous pourrez aussi nous donner votre analyse en ce qui concerne les détails et les objectifs et les points importants en fait du discours de Saïd Hassan Nasrallah?
Déjà, il faut rappeler les téléspectateurs de Presse TV, c'est que l'annonce du discours de Saïd Hassan Nasrallah a été faite il y a environ une semaine, c'est-à-dire avant même justement les événements qui ont éclaté en Palestine occupée. Donc, il était censé parler en fait dans son discours sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, sur l'accord. Le réchauffement des relations entre le royaume de l'Arabie saoudite et la République islamique de l'Iran, sur la question des migrants syriens, des réfugiés syriens, sur la question, donc il y avait des questions sur la question présidentielle du Liban. Donc il a changé en fait son discours parce que justement il y a eu un événement très important en Palestine occupée. C'est pour ça il a commencé son discours par justement les récents événements en Palestine occupée. Il a d'abord souligné que la position unifiée des factions avait avorté les objectifs de Netanyahou, c'est ce que j'avais dit au début, étant donné que c'est un point fort. Et il a rappelé que les calculs de Netanyahou se sont soldés par un échec. Il a essayé de tenter d'isoler le djihad islamique, de neutraliser le reste des factions palestiniennes et de semer la sédition dans l'environnement de la résistance, ce qu'il n'a pas réussi à faire, au contraire. Il a rappelé que l'un des atouts de force des mouvements de résistance dans la région est qu'ils ont une grande capacité de restaurer rapidement leur structure de commandement. Donc là, il a rappelé en fait que même quand on a assassiné le commandant-chef de la résistance islamique, Imad Mournier, en Syrie, ensuite il y a eu, il y a quelques années, le commandant-chef des gardiens de la révolution islamique, Haj Qasem Soleimani. Oui. Mais l'axe de la résistance n'arrête pas son parcours ni ses performances. Et ce qui s'est passé récemment, là, dans les événements récents en Palestine occupée, c'est que l'entité sioniste a reconnu qu'en fait, il y a de nouveaux missiles dotés de technologies de haute précision qui ont été utilisés par le djihad islamique et qui n'ont jamais été utilisés auparavant par le Hamas ou par le djihad islamique. Et là encore, hier, ils ont utilisé pour la première fois des missiles air-sol. Donc là, on est entré également dans l'utilisation de nouvelles armes. Et même le djihad islamique a dévoilé sur une vidéo qu'il a diffusée sur son média militaire. Le dernier missile, Burak 84, qui est capable d'avoir une portée de 80 km et qui est également de haute précision. Donc, c'est ce qu'a rappelé justement le secrétaire général du Hezbollah. Bien entendu, il a parlé de la Syrie, en rappelant que la Syrie n'a pas changé sa stratégie, n'a pas changé d'axe, malgré tous les complots qui ont été dessinés contre elle, et qu'au contraire, la Syrie est retournée au sein de la Ligue arabe. Et bien entendu, il a vilipendé les États-Unis, en rappelant que les États-Unis continuent de voler le pétrole et le gaz syrien et continuent d'imposer un blocus sur la Syrie à travers la loi César. Il a également, pour la première fois, il a parlé de la question du trafic de drogue, auquel on accuse souvent le Hezbollah, afin justement de briser son image. Et il a rappelé qu'au niveau de la charia islamique, au niveau du fiqh, il n'est pas question pour le Hezbollah de s'engager dans un trafic de captagone ou dans tout cela. Au contraire, il faut se demander qui au Liban a intérêt à faire ce trafic, qui dans les pays du Golfe sont en train d'acheter des Libanais. Et là, il a dit que nous sommes prêts à aider l'armée pour créer un comité d'enquête afin de pouvoir définir quelles sont les personnes qui sont impliquées. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il a parlé.
Merci infiniment, Alaa Radaoubala. Vous avez évoqué la situation, la perspective des évolutions, mais aussi l'analyse du discours de Seyed Hassan Nasrallah. Luc Michel, vous avez entendu cette analyse. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse aussi bien sur la perspective des évolutions, vu la situation actuelle, et aussi le discours de Seyed Hassan Nasrallah?
La raison sur toute ma vie. Il y a trois choses à dire. Tout d'abord, en ce qui concerne le trafic de drogue, il y a aujourd'hui une géopolitique de la drogue, on l'appelle comme ça, qui inclut étroitement la vente de drogue au sein des appareils d'État et des appareils économiques occidentaux, tout d'abord aux États-Unis. La deuxième chose qu'il faut dire, évidemment, c'est que c'est le rôle initiateur de l'axe de la résistance dans la phase actuelle du combat palestinien, puisque c'est en 2006 que le Hezbollah a inventé au Liban cette nouvelle forme de guerre qu'on appelle la guerre hybride et qui a connu tant de succès. Enfin, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'en renouant avec la lutte armée, la résistance palestinienne renoue avec ses racines des années 1960. Et je tiens ici à rendre hommage à la mémoire de Roger Coudroy. C'est le premier Européen qui est tombé au combat, les armes à la main dans les rangs du Fatah. Il appartenait à mon organisation. Nous ne devons pas oublier cette première génération du Fatah.
Exactement. Et Luc Michel, vu la complexité de la situation, nous avons près d'une minute devant nous. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à l'intensification des combats sur le terrain?
Écoutez, je crois, moi, à une radicalisation des combats, d'autant plus que l'axe de la résistance a le vent en poupe et que la géopolitique du Proche-Orient a changé. La réconciliation entre l'Arabie saoudite et Téhéran, qui va être suivie par une réconciliation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Évidemment, ça annonce de plus en plus de support et un monde arabe vent debout derrière la résistance palestinienne. Donc, radicalisation, oui.
Merci infiniment. Alors, Luc Michel, géopoliticien, Radaoubala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban, était avec nous. Nous avons évoqué ces derniers jours, ces cinq jours de combat intense entre le Gaza, plus précisément l'axe de la résistance, et le régime sioniste, et aussi la perspective des évolutions. En effet, la situation est très compliquée. Il faut s'attendre aux prochains jours pour avoir plus de détails. Nous consacrerons bien sûr d'autres émissions à ce sujet avec nos experts. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt à toutes et à tous. Au revoir.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous. Un pétrolier iranien, saisi illégalement par une société étrangère il y a 5 ans, a été repris lors d'une opération conjointe de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère iranien du renseignement. Selon le juge en chef de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, Mojtaba Rahramani, le pétrolier Boriti, d'une capacité de 10 000 tonnes, a été loué illégalement à une personne étrangère en 2018, avec la falsification de documents par certaines personnes à l'intérieur du pays, tandis que ses propriétaires iraniens ont été privés des profits qu'ils en tiraient. Le chef du département de la justice de la province d'Hormozgan a ajouté qu'après les enquêtes menées par les organisations de sécurité iraniennes, il a été découvert que la société étrangère utilisait le navire à des fins de trafic de carburant. Soulignant que le procureur de la capitale provinciale Bandar Abbas avait ordonné la saisie du pétrolier en février de cette année, M. Rahramani a déclaré. À la suite d'une décision de justice et d'une étroite coopération entre la marine du CGRI et le ministère du renseignement, le pétrolier a finalement été identifié et capturé dans les eaux du golfe Persique ce mois-ci. Le navire se trouvait apparemment dans le port iranien d'Assalouye sur la côte occidentale du golfe Persique pour décharger sa cargaison de carburant. Les ministres iraniens et français des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone ce vendredi 12 mai. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a remercié l'Iran pour l'action humanitaire qu'il a menée en libérant 2 ressortissants français, Benjamin Brière et Bernard Félan, ce qu'elle a qualifié d'une mesure efficace et d'un pas renforçant la confiance mutuelle. De son côté, Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, a tenu à faire allusion aux relations culturelles et historiques franco-iraniennes, disant que l'approche réaliste de Paris envers la République islamique d'Iran constitue un pas positif. Dans une autre partie de la conversation téléphonique, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que le corps des gardiens de la révolution islamique joue un rôle indéniable dans la préservation de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme takfiriste dans la région. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que les deux parties avaient eu des entretiens constructifs récemment à Pékin. Le dialogue constructif est le meilleur moyen de résoudre les problèmes et la France se félicite de la poursuite des discussions constructives et approfondies entre les deux pays, a-t-elle déclaré. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié dimanche 14 mai un communiqué à l'occasion du 75e anniversaire de la création illégitime du régime sioniste, connu parmi les Palestiniens comme le jour de la Nakba, catastrophe. Dans le communiqué, l'Iran a réaffirmé sa solidarité avec le peuple opprimé de Palestine, affirmant que les auteurs israéliens des récents crimes dans la bande de Gaza assiégée doivent être punis. Le ministère a souligné l'importance de soutenir la résistance du peuple palestinien et sa cause légitime pour libérer les territoires occupés et établir un État indépendant avec la ville de Quds comme capitale. Le ministère a déclaré que tous les plans politiques présentés au cours des 3 dernières décennies n'ont abouti à aucun résultat en raison de leur négligence des causes profondes de la crise. Le communiqué a réitéré une fois de plus la solution démocratique de la crise, solution qui est basée sur le retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur patrie et la tenue d'un référendum avec la participation de tous les habitants originaires de la Palestine, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, pour déterminer leur propre destin et leur système politique. Le ministre a condamné les crimes commis par le régime sioniste ces derniers jours contre les habitants de Gaza, qui sont assiégés depuis plus de 18 ans dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, soulignant que ces actes criminels constituaient une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme. Le jour de la Nakba tombe le 14 mai de chaque année, marquant la période de 1948 où plus de 750 000 Palestiniens ont été expulsés de force de leurs maisons et dispersés dans des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza et dans les pays voisins de la Palestine. Des milliers de prisonniers palestiniens organisent une grève de la faim d'une journée pour protester contre la politique répressive d'Israël et exiger la libération immédiate d'un détenu palestinien malade. Le Comité suprême d'urgence pour le mouvement des prisonniers palestiniens a annoncé dimanche dans un communiqué que la grève de la faim débuterait ce lundi. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'un des principaux objectifs de cette mesure serait de faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles libèrent le détenu palestinien de longue date, Walid Daqa. Écrivain et militant, il est emprisonné par Israël depuis 1986 pour sa résistance contre le régime d'occupation. La grève de la faim vise également à protester contre les politiques israéliennes d'isolement cellulaire et de détention administrative. La détention administrative est une politique inhumaine utilisée par le régime d'occupation qui lui permet de garder des Palestiniens en prison pour des périodes indéfinies sans aucune inculpation ni procès. Le mois dernier, un rapport d'un groupe de défense des droits des Palestiniens a révélé qu'Israël gardait environ 4 900 détenus palestiniens, dont de nombreuses femmes et enfants, derrière les barreaux. Le rapport, publié à l'occasion de la journée du prisonnier palestinien, indique que ce chiffre comprend 31 femmes palestiniennes et 160 enfants de moins de 18 ans. La Ligue arabe a salué le retour de la Syrie dans son groupe, composé de 22 membres, affirmant que la présence d'Hamas aux réunions en cours dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah augurait d'une nouvelle ère pour le monde arabe. Oussam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a fait cette déclaration avant la deuxième journée consécutive des réunions du Conseil économique et social arabe auxquelles ont participé les représentants et hauts fonctionnaires des États membres à Jeddah mardi 16 mai 2023. « J'ai prononcé aujourd'hui un discours au nom du secrétaire général de la Ligue arabe dans lequel nous avons salué la présence de la Syrie qui ouvre la voie à une nouvelle phase pour la situation arabe et qui profite à toutes les sociétés », a déclaré Zaki. La deuxième réunion préparatoire du sommet arabe qui doit se tenir à Jeddah le 19 mai a débuté ce mardi avec la participation de la délégation syrienne présidée par le vice-ministre des Affaires étrangères Ayman Soussan. Les réunions du Conseil économique et social arabe examinent les moyens de renforcer l'action arabe commune pour parvenir au développement durable ainsi que d'autres questions sociales et économiques qui préoccupent les pays arabes. La Ligue arabe avait suspendu l'adhésion de la Syrie, l'un de ses membres fondateurs, en novembre 2011, au début de la guerre soutenue par l'étranger dans ce pays. La Syrie a dénoncé cette décision comme illégale et constitutive d'une violation de la charte de l'organisation. Riyad et Damas ont convenu en mars de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir les ambassades après plus d'une décennie, incitant d'autres pays arabes à se lancer activement dans le rétablissement des liens avec la Syrie. Vendredi 12 mai, des troupes azerbaïdjanaises et arméniennes ont échangé des tirs avec des armes, notamment des mortiers et des drones, à la frontière commune, tuant un soldat de chaque côté, deux jours avant des pourparlers au plus haut niveau sur un accord de paix à long terme. C'était la deuxième journée consécutive d'échanges de tirs avant la rencontre prévue dimanche 14 mai à Bruxelles entre le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliyev. Selon le ministère arménien de la Défense, les forces de ce pays ont essuyé des tirs de drones, de mortiers et d'armes légères non loin du village de Sodg, près de la frontière. À la suite des tirs ennemis, la partie arménienne compte un mort au combat et un blessé, a indiqué le ministère. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que ses troupes avaient repoussé une attaque de drones arméniennes sur ses positions dans le district de Kalbajar. Il a rapporté plus tard qu'un de ses militaires avait été tué, mais que les troupes azéries contrôlaient la situation. Au cours des 30 dernières années, les deux parties se sont engagées dans deux guerres pour la région contestée du Haut-Karabakh. En 2020, la deuxième guerre du Karabakh a éclaté, tuant plus de 6 500 personnes des deux côtés, au cours d'un conflit de 6 semaines. La guerre a pris fin avec l'accord négocié par Moscou, qui a vu Erevan concéder des pans du territoire azerbaïdjanais dont il s'est emparé depuis plusieurs décennies. Le mois dernier, l'Azerbaïdjan a mis en place un point de contrôle sur la seule route terrestre reliant l'Arménie au Karabakh. Cette décision controversée contredit l'accord de paix qui précise que la région doit être sous contrôle russe. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.